Sur RFI, il est tout juste midi, temps universel, 13h, ici à Paris. Bonjour, bienvenue.
Charlotte Hydrac.
Le tour du monde de l'actualité à la mi-journée avec à la une de nouvelles libérations ce matin dans le cadre de l'accord de paix et de trêve à Gaza. 3 otages israéliens, 3 binationaux ont été relâchés en contrepartie de la libération de détenus palestiniens par l'État hébreu. Des libérations mises en scène de part et d'autre, bataille d'images et de symboles aussi, on y revient dans un petit instant. Échange de piques à Munich au deuxième jour de la conférence internationale sur la sécurité en Allemagne. Le président ukrainien appelle un sursaut face à la Russie pour mettre fin au conflit. Il le répète, Kiev n'acceptera jamais un accord conclu dans son dos. Alors qu'une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine est évoquée en Arabie Saoudite, on verra aussi avec notre invité quel est le jeu de Riyad dans ce dossier.
RFI Midi.
Éviter à tout prix une escalade régionale en RDC, appel du patron de l'ONU à l'ouverture du sommet de l'Union africaine, alors que les combattants du M23 soutenus par des militaires rwandais sont signalés dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Et puis le numéro 1 mondial du tennis, Yannick Sinner, suspendu jusqu'au 4 mai après un accord après l'Agence mondiale antidopage. Le journal des sports, c'est dans 10 minutes. Oui, c'est une nouvelle phase du très fragile accord de trêve entre Israël et le Hamas, le processus qui a failli dérailler cette semaine. Finalement, comme prévu, 3 otages israéliens ont donc été libérés ce matin dans la bande de Gaza. 3 hommes, des binationaux, relâchés cette fois encore avec une mise en scène exhibée sur un podium. Ils ont dû dire quelques mots au micro. Libération suivie en direct depuis Tel Aviv, en Israël, par une foule réunie sur ce qu'on appelle la place des otages, où l'on vous retrouve, Abla Junaidi. Quelle était l'atmosphère, alors tout à l'heure, le sentiment dominant, le soulagement, l'angoisse aussi?
Oui, Charlotte, cela fait 497 jours que les otages sont détenus par le Hamas, comme l'indique le compteur sur la place. Mais c'est sur l'écran géant affichant les instants de leur libération que tous les yeux étaient rivés ce matin. Le Hamas a de nouveau mis en scène, vous l'avez dit, l'opération en demandant aux 3 otages, Yair Horn, Sagi Dekel Chen et Sacha Trufanov, de se tenir sur une scène et de parler au micro. Une mise en scène huée par la foule ici. Les 3 binationaux sont finalement apparus en bonne santé, visiblement. C'est le moment de joie. Osnat et Sarah, 2 amies présentes dans la foule, se mettent à douter.
Ils les nourrissent juste avant de les libérer. Ça ne veut rien dire. Et à en juger par leur visage, ils n'ont pas l'air en si bonne santé. L'un d'eux marchait difficilement. Il y a beaucoup de problèmes, sans parler de ce qu'on ne voit pas, leur état mental.
Vous savez, pour moi, ils font partie de mon ADN depuis presque 500 jours.
Ils étaient nombreux dans la foule à redouter l'état de forme des otages. Ceux qui avaient été libérés la semaine dernière étaient dans un état squelettique. Cela avait suscité une grande émotion en Israël, mais aussi l'inquiétude au niveau international, notamment la part du Comité international de la Croix-Rouge qui demande à avoir accès aux personnes encore détenues à Gaza.
Abla Junaidi en direct de Tel Aviv en Israël. Israël qui doit libérer en contrepartie au total 369 prisonniers palestiniens. Des détenus ont été acheminés tout à l'heure vers Gaza et la Cisjordanie occupée dans des bus. Un des convois vient d'arriver à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Et juste avant ces libérations, des images choc ont été diffusées. Des images de détenus palestiniens vêtus de survêtements floqués d'une étoile de David. Samy Bourlifa, correspondant de RFI à Jérusalem, vous êtes en direct. Samy, ces photos ont été partagées par la radio publique israélienne.
Et la symbolique est tragique, elle renvoie aux pires heures de l'histoire de l'humanité et à ces juifs dans les camps de concentration nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. L'administration pénitentiaire israélienne a publié 2 photos. Sur la première, une dizaine de détenus palestiniens à genoux portant ses survêtements avec une étoile de David sur le torse et sur le dos. Et cette inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Sur la seconde photo, on aperçoit cette fois derrière des barreaux un groupe important de prisonniers vêtus de ce même habit. Certains sont pieds nus. Sur les réseaux sociaux, un journaliste israélien dénonce ces clichés. « Nous ressemblons de plus en plus à nos ennemis », écrit-il. Israël avait fermement condamné les mises en scène et la propagande du Hamas lors de cérémonies orchestrées chaque semaine pour la libération d'otages israéliens. Le club des détenus palestiniens, une organisation civile de défense des droits des prisonniers écroués en Israël, dénonce au micro de RFI ces photographies. S'il y a bien un peuple qui peut être sensible à ce genre de symbole, c'est le peuple juif. Et Israël choisit de reprendre les méthodes des nazis. C'est à la fois criminel, raciste et idiot, explique Kadoura Feres, le porte-parole du club des détenus palestiniens.
Sami Bourlifa en direct de Jérusalem. Voilà donc pour cette nouvelle étape de l'accord de trêve. J'ajoute que dans un communiqué, les familles d'otages appellent à ne pas laisser cette trêve à Gaza s'effondrer. Au Liban, plus de 25 personnes arrêtées, selon le ministère de l'Intérieur, après l'attaque contre un convoi de l'ONU hier. Il transportait des casques bleus, de la finule vers l'aéroport de Beyrouth. Un véhicule a été incendié, il y a deux blessés. Cela s'est passé sur une route bloquée par des partisans du Hezbollah. Le président libanais Joseph Aoun a promis de punir les responsables. Lentement mais sûrement, l'armée russe continue de grignoter du terrain dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Elle a revendiqué la prise d'un nouveau village. La Russie qui n'est pas représentée à la conférence de Munich sur la sécurité en ce moment en Allemagne, deuxième jour de ce rendez-vous diplomatique. Alors que les États-Unis ont annoncé des négociations directes avec Moscou, le président ukrainien l'a martelé ce matin. Il ne peut y avoir, dit-il, de plan de paix sur l'Ukraine sans l'Ukraine ni les Européens. Selon Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, le président russe, ment. Il ne souhaite pas la paix.
They don't want peace.
Ils ne veulent pas la paix, ils ne se préparent pas au dialogue. Presque tous les jours, la Russie nous envoie jusqu'à 100 drones Shahid, voire plus, chaque jour. Nous subissons aussi des attaques avec des missiles balistiques. On assiste à une augmentation des bombardements aériens, mais ce n'est pas tout. Cette année, Moscou prévoit de créer 15 nouvelles divisions, soit 150 000 soldats supplémentaires. C'est plus que les armées nationales de la plupart des pays européens. La Russie ouvre chaque semaine de nouveaux centres de recrutement de l'armée et Poutine peut se le permettre car les prix du pétrole sont encore suffisamment élevés pour qu'il puisse ignorer la communauté internationale. Par ailleurs, nous savons que la Russie prévoit d'envoyer des troupes au Bélarus cet été sous le prétexte de réaliser des exercices. C'est exactement de cette manière qu'ils avaient organisé leurs forces avant de lancer l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans.
Voilà le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich. Autre prise de parole remarquée à cette conférence sur la sécurité, celle du chancelier allemand. Tout à l'heure, en pleine campagne pour les législatives du 23 février, Olaf Scholz a dénoncé des ingérences en faveur de l'extrême droite. Réponse aux propos du vice-président américain J.D. Vance, qui avait critiqué le principe d'un cordon sanitaire autour du parti AFD. Autre grand rendez-vous diplomatique, le sommet de l'Union africaine, ça se passe à Addis Abeba et dès l'ouverture tout à l'heure, la crise dans l'est de la RDC s'est imposée. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à éviter à tout prix une escalade régionale et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Alors que sur le terrain, le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda avance dans la province du Sud Kivu, des combattants sont signalés dans la ville de Bukavu. Olivier Kiriza Namuguka habite précisément à Bukavu où il coordonne le réseau des radios et télévisions communautaires du Sud Kivu et il a lui-même du mal à savoir exactement ce qui se passe dans sa ville.
Depuis hier soir, nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous entendons des crépitements de balles, on tire par-ci, par-là. Et de par les quelques conversations qu'on a pu faire avec les frères et les amis qui sont dans la commune mère de Kadutu, ils nous parlent de certaines scènes de pillage. La situation elle est confuse, on ne sait pas qui contrôle la ville. Ce que nous attendons, c'est de savoir en principe la situation elle est comment. Parce que normalement, ceux-là qui peuvent peut-être s'approvisionner ou ceux-là qui peuvent chercher de l'eau ou chercher quelque chose, on voudrait savoir exactement la situation elle est comment, qui contrôle. C'est vraiment ça la peur que nous avons.
Un témoignage donc à Bukavu, recueilli par Amiras Willem, dossier à suivre dans Afrique Midi dans une vingtaine de minutes. En France, opération déminage pour François Bayrou, le Premier ministre qui rencontre en ce moment le collectif des victimes du collège-lycée de Bétarame dans le sud-ouest, dans sa ville de Pau, son fief, établissement privé catholique épinglé pour des accusations de violences physiques et d'agressions sexuelles entre les années 70 et 1990. 13h10 ici à Paris. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Charlotte Hydrac, bonjour à tous.
Les sports avec vous, on va parler de foot en Europe, mais d'abord cette nouvelle, mauvaise nouvelle pour le numéro 1 mondial de tennis, Yannick Sinner.
L'Italien qui écrase le circuit mondial, Charlotte, hein, vous le savez depuis quelques mois, vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem. Il est contraint au repos forcé pendant les trois prochains mois, suspendu pour dopage jusqu'au 4 mai. C'est l'agence mondiale antidopage qui l'a annoncé ce matin. Trois mois au lieu d'un à deux ans initialement demandé, le numéro 1 mondial s'en sort donc plutôt bien, a priori. Testé positif à un anabolisant en mars 2024, il s'en était sorti jusqu'alors, plaidant la contamination accidentelle, en l'occurrence une pommade sur la main d'un de ses kinésithérapeutes qui avait pénétré dans son organisme via un massage. L'AMA concède cette inoculation accidentelle, ce dopage à l'insu de son plein gré, en somme.
Ça nous rappelle quelque chose.
Oui, il y a fort longtemps. Mais l'AMA estime qu'un sportif est responsable de la négligence de son entourage. Sinner au repos forcé, donc c'est une sorte de côte mal taillée. Il manquera les quatre prochains Masters 1000, catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem.
Allez, place au foot avec la 22e journée de Ligue 1 au programme ce week-end, notamment...
2-2 hier entre Brest et Auxerre en ouverture. Trois matchs aujourd'hui qui concernent le haut du tableau. 16h, temps universel, Marseille, dauphin à 10 longueurs du PSG, reçoit Saint-Etienne, 16e. 18h, Monaco, 4e, qui décroche ces dernières semaines, accueille Nantes, 15e. Et en soirée, 20h05, TU, le leader parisien, se déplace à Toulouse, le 10e. Tout va bien en ce moment pour le PSG, large avance au classement. Un 8e de finale de Ligue des Champions qui se profile après la victoire 3-0 à Brest en barrage aller. Dans le sillage d'Ousmane Dembélé, irrésistible, auteur de 10 buts sur ses 4 dernières apparitions. L'entraîneur Luis Enrique espère continuer dans cette dynamique très positive.
Et c'est clair que nous avons un très bon moment, mais au même temps, chaque match et chaque compétition sont importants. On essaye de prendre du plaisir en jouant au football. L'année dernière contre Toulouse, on n'a gagné aucun des deux matchs que du championnat. Et ça signifie que ce sera, comme d'habitude, très difficile et... J'espère de voir, comme toujours, notre équipe à un haut niveau.
En français, Luis Enrique, adepte du journal en français facile sur RFI, il a dit Toulouse PSG, coup d'envoi à 20h05.
Ailleurs en Europe, Olivier, le choc en Allemagne cet après-midi.
17h30, TU, le champion en titre, le Bayer Leverkusen, reçoit le Bayern Munich, leader. Les Munichois peuvent prendre 11 points d'avance en cas de victoire et donc une option sur le titre. Mais à l'aller, les deux équipes ont fait match nul fin septembre. Et en Coupe d'Allemagne, début décembre, c'est Leverkusen qui s'était qualifié. Une confrontation qui est en train de devenir un classique du foot allemand, confirme l'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany.
Nous avons remarqué que lors des deux premiers matchs contre Leverkusen cette saison, beaucoup de gens s'y sont vraiment intéressés. Il ne faut pas oublier que Leverkusen n'a perdu qu'une seule fois au cours des 18 derniers mois. En Angleterre, il y a toujours eu ce genre de duel, Arsenal United, City United et aujourd'hui City Liverpool. Quand vous regardez la Bundesliga aujourd'hui, je ne serais pas surpris que Bayern s'inscrive dans ce genre de rivalité, car cette équipe actuelle de Leverkusen semble en mesure de toujours obtenir plus de 80 points sur une saison et même peut-être 90 points.
Nicht weit entfernt von 90 Punkte sind.
Ouais, Leverkusen, Bayern Munich, coup d'envoi 17h30 TU. Les autres affiches du jour en Europe, Charlotte, en Angleterre, 25e journée. Arsenal 2e à 7 points de Liverpool reçoit Leicester. Manchester City 5e recevra Newcastle 6e à 16h. Et puis en Espagne, le leader madrilène se déplace à Pampelune pour affronter l'Osasuna à 15h15 TU.
Enthousiaste Olivier Pron que l'on retrouve tout à l'heure dans Mondial Sport, c'est ça, avec Hugo Moissonnier, 16h10, temps universel.
Tout à fait.
À tout à l'heure. On en parlait dans le journal, deuxième jour de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Grand rendez-vous diplomatique sur les chamboulements géopolitiques du moment, notamment en Ukraine et à Gaza. Et cette question, quel rôle joue l'Arabie Saoudite? On en parle avec vous, Karim Sader, bonjour.
Bonjour.
Politologue, consultant spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe arabo-persique, maître de conférence à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Alors après un échange téléphonique cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le président américain a évoqué une rencontre avec son homologue russe, pas à Washington, pas à Moscou, mais en Arabie Saoudite. Pourquoi cette option de Riyad alors que l'Ukraine semble assez loin a priori des priorités diplomatiques de l'Arabie Saoudite?
Alors pour comprendre ce choix, il faut savoir que finalement cette guerre russo-ukrainienne a été une véritable aubaine pour l'Arabie Saoudite. Souvenons-nous, il faut remonter à 2018 et l'affaire de ce malheureux journaliste Khashoggi qui avait été assassiné. Mm-hmm. Et Riyad, avec son prince héritier Mohammed bin Salman, s'est retrouvé marginalisé en quelque sorte. Et avec le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, l'Arabie Saoudite s'est d'un coup retrouvée courtisée pour le rôle qu'elle peut jouer sur notamment l'échiquier énergétique, pour peser sur les cours du brut et pour pouvoir aussi, en quelque sorte, combattre la Russie, justement au moment où les Européens voulaient faire, et les Occidentaux, fermer le robinet du gaz et du pétrole russe. Ce que Riyad a fait, en fait, finalement, elle jouait un rôle d'équilibriste. Elle a réussi à maintenir sa relation historique avec les États-Unis, notamment avec Trump. On sait qu'il y avait une relation particulière. Mohammed bin Salman était, en quelque sorte, le chouchou de l'administration Trump, la précédente administration Trump.
Et en même bonne temps, relation avec la Russie aussi.
Voilà. Absolument, justement, la bonne relation avec la Russie, puisque en choisissant de ne pas s'aligner totalement sur la position occidentale, elle a montré à son allié de l'OPEP qu'elle n'était pas là pour le nuire, pour nuire à Vladimir Poutine, et qu'elle suivait son propre agenda aussi énergétique. Ça a marqué quand même un tournant dans l'indépendance, cette quête d'indépendance des pays du Golfe, et en particulier de l'Arabie Saoudite.
Donc c'est dans sa stratégie d'influence hein, de Riyad, de jouer sa carte pour se positionner comme un acteur clé dans la résolution des conflits.
Absolument, ça arrange donc Washington comme Moscou que l'Arabie Saoudite vienne jouer ce rôle, d'autant plus que MBS, Mohammed bin Salman, donc on a connu donc ses débuts absolument chaotiques de l'affaire Khashoggi à l'embargo sur le Qatar et les conflits au Yémen qui étaient une catastrophe humanitaire. Donc on est passé d'un Mohammed bin Salman belliqueux à MBS qui joue les médiateurs et qui veut donc redorer son blason sur la scène internationale, d'autant plus qu'il a devant lui un corridor, c'est le vide stratégique qu'a laissé l'Iran grâce, on va dire, ou du fait de la campagne militaire israélienne
très fragilisée, oui.
Absolument, qui a balayé littéralement l'influence iranienne au Proche-Orient. On l'a vu avec le Hamas qui a été à terre, le Hezbollah qui a été énormément affaibli, et puis le régime de Bachar el-Assad qui s'est effondré, donc comme un château de cartes, le dispositif iranien s'est effondré. On voit que l'Arabie Saoudite veut venir jouer ce rôle de leadership régional, et cette conférence, effectivement, ce rôle de médiateur entre Washington et Moscou, c'est bon pour Mohammed bin Salman.
Et Karim Sadr, vous disiez les avocats, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont des intérêts communs, mais est-ce que ces relations stratégiques ne sont pas mises à mal par les positions de Donald Trump sur Gaza? Riyad a très fermement critiqué la proposition de Trump de déplacer les habitants de Gaza. Riyad a rappelé la position ferme de l'Arabie Saoudite pour la création d'un État palestinien.
Totalement. Je pense que l'Arabie Saoudite, cette fois-ci, ne peut pas suivre Donald Trump avec le style qui lui est propre. Il veut forcer la main à ses alliés. On a vu comment il a accueilli le roi de Jordanie en voulant lui forcer la main à accueillir les Palestiniens. Il ne sera pas question pour l'Arabie Saoudite d'accepter une normalisation avec Israël sans contrepartie pour les Palestiniens. Voilà. Et ça sera, à mon avis, la pomme de discorde entre Trump et Mohammed bin Salman. Trump a cette habitude, donc voilà, je le disais, de vouloir un petit peu pousser ses alliés à bout. Je pense aussi qu'il lui offre ce cadeau de médiation entre lui et la Russie, un peu comme un trophée pour justement qu'il puisse aller dans son sens. Mais l'Arabie Saoudite jouerait trop gros et trop cher, elle qui incarne quand même la puissance du monde sunnite, en allant normaliser d'autant plus avec le gouvernement de Netanyahou, qui est le plus à droite. Je pense qu'elle perdrait trop. N'oublions pas que l'Iran a beaucoup bénéficié en tout cas, a accentué son rôle régional en instrumentalisant la carte palestinienne. Et il n'est pas question cette fois pour l'Arabie Saoudite de laisser cette carte lui échapper. Et pour cela, il faudra donner des gages aux Palestiniens.
Et donc cette perspective de normalisation des relations avec Israël, c'est en suspens, ça s'éloigne selon vous ?
Alors, moi, je pense personnellement qu'elle finira par arriver, mais ce ne se fera pas avec les acteurs en présence. Ce ne sera pas possible de signer une normalisation avec Netanyahou après tout ce qui s'est passé à Gaza. Mmh. Ce sera difficile de le faire avec un Donald Trump qui aussi n'a pas beaucoup de temps, finalement. Avec Mohammed bin Salman. Donc, je pense qu'on finira par arriver tôt ou tard à une normalisation, mais il faut
ça
que
prendra
les choses...
du temps.
Voilà. Ça doit évoluer dans le sens aussi de conditions pour les Palestiniens.
Merci à vous, Karim Sadr. Politologue, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Très bonne journée, à bientôt. Presque presque 21h20 en Corée du Sud, où la mairie de Séoul joue aux marieuses face à la baisse des naissances. La municipalité a organisé pour la Saint-Valentin un grand blind date, des rencontres entre 50 hommes et 50 femmes qui ne se connaissaient pas, avec comme objectif de former de nouveaux couples. Reportage à Séoul, c'est Lio Fioretti.
Dîner, vin pétillant et œuvres d'art, la mairie de Séoul sort le grand jeu pour cette Saint-Valentin dans l'espoir de former de nouveaux couples. Une intrusion des pouvoirs publics dans ce qui est habituellement de l'ordre du privé, mais nécessaire selon les organisateurs comme Park Suki, en charge de la lutte contre la dénatalité à la mairie de Séoul.
Au-delà de simples rencontres, ce programme vise à créer des couples qui peuvent se marier, avoir des enfants, car c'est une grande problématique de notre pays. La mairie aide par ailleurs les mariages avec un chèque de 700 euros pour les jeunes mariés cette année à Séoul.
En 2024, le taux de natalité de la Corée du Sud s'élevait à 0,7 enfants par femme, le plus bas au monde, et le nombre de mariages diminue également. D'après un récent sondage, 40% des Sud-Coréens entre 20 et 50 ans ne souhaitent pas se marier. Coûts financiers importants ou manque d'égalité au sein des couples, les arguments sont divers. Mais pour ces deux participants venus aujourd'hui au blind dating, il s'agit avant tout de faire des rencontres.
Je pense que c'est difficile de trouver l'amour de nos jours, parce qu'il y a peu de gens qui correspondent à mon style. Et aussi parce qu'il est difficile de tomber sur quelqu'un avec qui l'entente est réciproque.
Oui, ces jours-ci, les gens ne se rencontrent plus. Nous n'avons pas forcément le temps, l'occasion de faire de belles rencontres. Alors un événement comme celui-ci, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si je trouverai l'amour, mais ça peut aider.
Les deux jeunes prétendants continuent leur dîner, mais une question se pose. Ce genre d'événement est-il bien efficace pour créer des nouveaux couples? Depuis quelques années, différentes villes du pays s'y sont essayées et beaucoup ont annulé leur programme de speed dating. Trop peu de volontaires et de couples à la sortie. Park Suki de la mairie de Séoul défend tout de même son programme.
Nous avons eu de bons résultats les années précédentes avec 22 couples sur 100 participants. Bien sûr, la crise de dénatalité n'est pas seulement une affaire de rencontre. Il faut réfléchir aux problèmes pour trouver un logement, à l'équilibre entre vie et travail. Mais je pense que le blind dating peut être un point de départ.
Après s'être rencontrés et avoir dîné ensemble, les participants pourront choisir leurs trois personnes préférées. La mairie leur communiquera ses noms dès le lendemain, dans l'espoir qu'ils se retrouvent pour un nouveau rendez-vous galant. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Et on reste en Asie-Pacifique, le nouveau centre du monde. C'est ce que dit Sophie Boisseau du Rocher, spécialiste de la région. C'est le titre d'ailleurs de son nouveau livre. Et cette montée en puissance est notamment liée à la mobilité, chronique transport, signée Marina Mielzarek.
Sophie Boisseau du Rocher, bonjour.
Bonjour.
Vous avez l'avantage d'aller très souvent en Asie, en Chine. Vous aimez, vous, aller dans le détail?
Oui, en l'occurrence, les changements les plus frappants quand on arrive dans un aéroport d'Asie, c'est de voir la modernité en marche. Non seulement l'aéroport est hyper performant, mais les moyens de rejoindre la capitale ou la grande ville à côté dans un aéroport thaïlandais, malaisien, philippin, les procédures vont très vite, les passeports sont biométriques, enfin, il y a tout un ensemble de choses.
Parce qu'on parle beaucoup des routes de la soie chinoises, c'est-à-dire des rails, des routes, des aéroports, des ports que les Chinois ont construits et qui veulent construire de par le monde, mais vous dites les routes de la soie technologiques, numériques.
C'est non seulement la Chine, mais également le Japon, la Corée du Sud, Taïwan. La modernité en Asie, elle n'est pas seulement une modernité chinoise. Et c'est un point vraiment essentiel. Il y a une concurrence féroce entre les partenaires asiatiques.
Vous dites, c'est la partie du monde où les routes maritimes sont les plus modernes et les plus grosses et importantes.
Oui, c'est vraiment l'Asie-Pacifique et le cœur de la nouvelle géoéconomie maritime mondiale. 60% des bateaux qui circulent dans le monde transitent par l'Asie-Pacifique. Les trois premiers producteurs de conteneurs sont les Chinois, les Sud-Coréens et les Japonais. Singapour, qui est évidemment un des premiers ports mondiaux, accompagné de l'intelligence artificielle, de chariots, de camions qui viennent chercher les conteneurs, les sélectionnent.
Que c'est robotisé en fait.
Complètement robotisé, et ça donne, si vous voulez, à la région une avance absolument colossale. grâce à tous ces réseaux maritimes, aériens. La principale compagnie low cost se trouve en Malaisie, hein, c'est Air Asia. Il y a Air Asia, mais il y en a des dizaines de compagnies low cost en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines.
Low cost, hein, c'est à bas prix.
C'est à bas prix, des compagnies locales, provinciales, je dirais même, qui fonctionnent très bien et qui permettent de relier les provinces entre elles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces low cost sont particulièrement utilisés par les populations régionales. Ils ne sont pas du tout inquiets pour leur avenir. Sur les 2,3 milliards d'habitants, qui n'intègrent donc ni l'Inde ni l'Australie, 800 millions de jeunes se trouvent en Asie-Pacifique.
Sophie Boisseau du Rocher, l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde. Merci beaucoup.
Un livre coécrit donc aux éditions, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Sous toutes ses coutures sur RFI, l'art du textile avec la grande artiste colombienne Olga de Amaral. La Fondation Cartier à Paris lui consacre une rétrospective, une expo de près de 80 œuvres des années 60 à aujourd'hui, avec ses tissages influencés par les textiles anciens de son pays, ou des sculptures de fil en trois dimensions, Muriel Malouf.
Olga de Amaral, avec notamment l'américaine Sheila X ou la polonaise Magdalena Abakanowicz, a contribué dans les années 60 à élever l'art du textile considéré comme mineur jusque-là, car dévolu aux femmes, au rang d'art noble. En fil de lin, coton, crin, métal ou or, les tissages d'Olga de Amaral sont des sculptures de couleurs, parfois monumentales et où domine la géométrie. Marie Pérennes, commissaire.
Olga est colombienne, elle vient des Andes, là où il y a une tradition textile ancestrale très forte. Et évidemment, elle a vu les sites archéologiques importants. Il y a un musée de l'or à Bogota dans lequel il y a des vestiges, notamment de bijoux, voilà, tous très géométriques, des triangles, des carrés, des spirales, des formes qu'on retrouve beaucoup dans l'œuvre d'Olga. Et puis, la deuxième grande influence, je dirais que c'est sans aucun doute le modernisme et l'héritage du Bauhaus. Donc elle étudie selon cette philosophie-là, hein, dans une esthétique qui se veut très formellement construite selon une grille et des motifs géométriques extrêmement prégnants. Et ça, on le retrouve beaucoup aussi dans son travail.
La spirale est aussi un motif récurrent chez l'artiste.
La spirale, elle parle aussi de l'infini cycle de la vie qui recommence éternellement, des perspectives temporelles qui sont très chères à Olga. Hein. Et c'est vrai que le temps est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son travail, hein. Le temps long, celui du tissage, bien entendu, sur le métier à tisser, qui est un temps infini, propice à la méditation. Donc on a pensé le sous-sol selon ce cycle, en suivant cette spirale.
Un sous-sol à la Fondation Cartier où s'offre toute la richesse du travail d'Olga de Amaral. À ses trames tissées viennent se superposer le papier de riz et plus tard la feuille d'or, comme dans cette œuvre qui fait partie de la série Alchimias ou Alchimie.
C'est effectivement une œuvre pour laquelle Olga utilise de la feuille d'or. C'est l'or de l'art précolombien, très riche, mais c'est aussi l'or pillé par les colons espagnols lorsqu'ils arrivent en Colombie. Puis plus tard, c'est l'or des autels des églises catholiques qu'elle visite lorsqu'elle est enfant avec sa mère. Donc au début, elle utilise la feuille d'or pour souligner les coutures dans ses œuvres. Et puis très vite, l'or va essaimer, va prendre toute la surface de l'œuvre. Et c'est vraiment chez Olga cette recherche de la lumière.
La Fondation Cartier déploie ainsi l'univers textile aérien et puissant d'Olga de Amaral dans une scénographie subtile de l'architecte Lina Rotmé. Une exposition qui invite à la méditation entre couleurs et matière.
Cette expo, c'est donc à la Fondation Cartier à Paris et jusqu'au 16 mars. Restez avec nous à l'écoute de RFI à suivre cette Afrique Midi avec à la une la situation dans l'Est de la RDC et le sommet de l'Union africaine. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le bitcoin autour de 100 000 dollars. Les cours des crypto-monnaies battent des records. Un phénomène économique et politique qui, malgré les risques liés à leur volatilité, attire les investisseurs du monde entier. Les cryptos sont-elles l'avenir de la finance? On en parle avec leurs supporters et des spécialistes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée
Pierre-Edouard Deldic.
Nous parlons cette semaine d'Albert Camus et aussi d'une réflexion philosophique sur le partage entre humains et non-humains avec l'historien François Hartog.
Les grands textes fondateurs, que ce soit la Genèse, que ce soit les épopées mésopotamiennes, que ce soit Hésiode, commencent par des récits de partage.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.